semaine prochaine.
10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans tout juste 10 minutes, la libre antenne, mais d'abord Sébastien Duhamel pour la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et on va débuter avec la politique ivoirienne, car le PPACI et le PDCI annoncent un front commun en amont de la présidentielle d'octobre. La nationalisation de la Somaïr au Niger, chargée de l'exploitation de l'uranium, elle était jusqu'à présent filiale du géant français Orano. Vous entendrez ensuite l'avocat du rappeur togolais Amron, qui a pu rendre visite à son client pour la première fois après bientôt un mois de privation de liberté. La journée mondiale des réfugiés, RFI se met bien sûr à la page. Et puis un visionnaire de la musique africaine, Francis Bébé, mort il y a 24 ans, mais remis sous les projecteurs aujourd'hui avec une nouvelle compilation. Un front commun en Côte d'Ivoire, un front érigé par les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPACI, en amont de la présidentielle du 25 octobre. Union matérialisée par une déclaration commune signée hier et réclamant la réinscription sur les listes électorales de Laurent Gbagbo, de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, de l'ancien ministre Charles Blé Goudé ainsi que de Tidjane Thiam. Tous les quatre sont pour l'heure inéligibles en raison de décisions de justice. À Abidjan, Binta Diagne.
Après plusieurs mois d'échanges, plusieurs cadres du PPACI et du PDCI assistent à la signature d'une déclaration commune. Il s'agit d'un front commun dans lequel les deux partis s'unissent autour de plusieurs causes. Ils exigent l'inclusion des candidats inéligibles et des réformes électorales. Absent du pays depuis 3 mois, Tidjane Thiam, le président du PDCI, suit cet événement en visioconférence. Il souligne l'importance de cette union.
L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie et que nous saurons ensemble préserver la stabilité de notre cher pays, plus et mieux que ceux qui s'entêtent à rester au pouvoir en faisant courir des risques immenses à notre pays et à la sous-région.
L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo hausse le ton.
Ce n'est pas tenable. Tu ne peux pas supprimer toutes les candidatures. Le PDCI et le PPACI ont aujourd'hui un accord et nous allons continuer la lutte. Aucune lutte n'est désespérée.
Le RHDP rejette ces appels au dialogue qui, s'ils étaient appliqués, seraient de nature à retarder le processus électoral, souligne Kobeno Kwasi Adjoumani, le porte-parole principal du RHDP. Nous n'allons pas tomber dans leur jeu, poursuit ce cadre qui en appelle à la lucidité de l'opposition. Il est encore temps pour ces partis politiques de proposer des candidatures alternatives, conclut ce responsable. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, où un ancien ministre membre du RHDP a été placé sous mandat de dépôt hier. Il s'agit de Joël Nguesson. La justice lui reproche des propos jetant le discrédit sur les décisions de justice et l'institution judiciaire. Cela renvoie à une interview dans laquelle il faisait justement allusion au fait que 4 candidats déclarés à la présidentielle d'octobre soient inéligibles à la suite de décisions judiciaires. Des combats intenses hier au Niger. Nouvelle attaque à Bani Bangou, ville de l'ouest du pays, à quelques 250 km de la capitale Niamey. 34 soldats ont été tués, 14 blessés selon le ministère nigérien de la Défense. Selon des sources locales, le commandant en chef de la position militaire de Bani Bangou aurait également été tué. Le Niger, qui décide par ailleurs de nationaliser la Somaïr, filiale du géant français du nucléaire Orano, qui est devenu au fil des mois le symbole des tensions entre Paris et Niamey. Orano avait déjà perdu le contrôle de la mine d'uranium exploitée par la Somaïr depuis 6 mois. La compagnie française est totalement écartée aujourd'hui, Pierre Firsion. C'est donc l'épilogue de cette crise.
En décembre dernier, Orano avait acté la perte du contrôle opérationnel de ses 3 filiales minières dans le pays. Le gisement d'Imouraren, la mine de Cominac et celle de la Somaïr. Le groupe, qui restait toutefois majoritaire à plus de 60% dans ses filiales, avait alors engagé plusieurs procédures d'arbitrage international contre l'État du Niger. Le mois dernier, Orano s'était dit sans nouvelles du directeur local de la Somaïr après une perquisition dans les bureaux de la société par les forces de sécurité. Lors de cette perquisition, du matériel informatique et des téléphones portables avaient été pris selon Orano, qui avait dans la foulée saisi le procureur de la République pour arrestation arbitraire et détention illégale. Hier, les autorités nigériennes ont donc franchi une nouvelle étape. Selon la RTN, l'État du Niger a décidé de nationaliser la Somaïr, je cite, face au comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger. Fin de citation. Par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somaïr sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger, a ajouté la télévision nationale, avant de préciser que les détenteurs d'actions bénéficierait d'une indemnité de compensation.
Pierre Firsion, le sort du rappeur militant Amron au Togo. Une voix très critique du régime de Fornia Singbe qui a été arrêté à son domicile le 26 mai avant d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Un mois bientôt après cette arrestation, son avocat a pu le voir pour la toute première fois cette semaine. Maître Célestin Agbogan lui a en effet rendu visite à l'hôpital. Et il est formel, c'est contre son gré que son client est interné. Il appelle donc à sa relâche. Je vous propose d'écouter Maître Célestin Agbogan.
Nous avons vu Amron qui raisonne, qui parle bien et je dirais même qui est plus lucide que ceux qui ont décidé de l'interner. Et Amron a décrit toute l'histoire relativement à sa mésaventure. Il nous a décrit avec précision les conditions dans lesquelles il a été interpellé ou enlevé, tout le trajet qu'il a parcouru, et il a donné des précisions sur les dates. Amron a été constant dans cette déclaration. Il a même dénoncé des traitements dégradants qui lui ont été infligés au SCRIC. Ce que voudrait dire que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui n'est pas malade. Il n'est pas libre de partir parce que le médecin a dit mais il sera interné pendant environ un mois. Et donc, comme le médecin a produit un rapport qu'il a transmis au procureur, le procureur a fait une réquisition relative à son internement pour qu'on le libère, parce que un malade, c'est lui-même qui se propose d'aller à l'hôpital. Surtout que c'est majeur. Sa place est chez lui, à la maison.
Maître Célestin Agbogan au Togo, le 20 juin. Une date qui marque chaque année la Journée mondiale des réfugiés, une thématique chère à RFI qui retrace régulièrement le parcours de ces millions d'exilés contraints de fuir leur foyer, leur pays, pour se reconstruire une nouvelle vie. Mais pour cela, encore faut-il avoir le statut de réfugié, car rappelons-le, oui, c'est avant tout un statut juridique octroyé au cas par cas selon le bon vouloir des États d'accueil. Et cela pose parfois des problèmes, comme pour cette situation identifiée par notre correspondante Juliette Dubois au Sénégal. Un parcours parmi d'autres, illustration des difficultés rencontrées sur ce chemin de l'exil.
Depuis plusieurs années, Lucas Tokpa vit dans cette petite chambre à Dakar.
C'est la chambre qu'elle a.
Cet Ivoirien de 35 ans a obtenu le statut de réfugié au Libéria en 2011 après la crise ivoirienne. Mais en 2016, Lucas doit quitter son pays d'accueil à cause de l'épidémie d'Ebola. Il se retrouve au Sénégal.
J'ai choisi le Sénégal parce que c'est un pays francophone où je pouvais m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Et un pays CDAO où je pouvais avoir plus de chances, comme je le pensais. Mais malheureusement, arrivé ici, ils m'ont amené encore, malgré tous ces documents qu'ils m'ont donnés, ils m'ont amené à reprendre encore la procédure de statut réfugié.
Au bout de 3 ans, on lui refuse, sous prétexte qu'il ne peut pas avoir le statut de réfugié 2 fois. Il a peur de représailles s'il retourne en Côte d'Ivoire et tous ses papiers et récépissés ont expiré.
Aujourd'hui, je ne possède rien. Même pour le contrôle de la police, je suis toujours pris et je suis obligé de payer de l'argent pour qu'on me libère. Je suis en situation irrégulière, rien comme papier. Je ne peux signer aucun contrat au Sénégal, je ne peux travailler même dans aucune société.
Dans une pochette, il garde précieusement les correspondances qu'il a adressées à différentes autorités.
Tous les ambassadeurs ont été au courant de tous ces trucs-là, où j'ai écrit. Ouais, ça, c'est l'ambassade du Canada. Ça, c'est audience demandée au procureur.
Pour se faire entendre, Lucas manifeste aussi régulièrement devant les bureaux du HCR à Dakar avec d'autres dans la même situation, espérant qu'un jour, son statut et son histoire seront enfin reconnus. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Allez, de quoi s'ambiancer un peu sur RFI. Avec un visionnaire de la musique africaine des années 70, Francis Bébé, mort il y a 24 ans, mais qui revient aujourd'hui sous les projecteurs avec Trésor Magnétique, une nouvelle compilation qui met en lumière le génie du musicien camerounais José Marinho.
Certaines voix ne s'éteignent jamais. Trésor Magnétique, nouvelle compilation du label Africa 7, puise dans des bandes retrouvées par Patrick Bébé, fils de Francis Bébé. Ces enregistrements, numérisés dans le studio mythique d'Abbey Road, révèlent 20 titres inédits qui redonnent vie à l'univers d'un visionnaire camerounais des années 70. Francis Bébé, fils de pasteur, précurseur d'une musique africaine mondialisée, a aussi été journaliste, romancier et collaborateur de l'UNESCO. En avance sur son temps, il bricolait synthé et boîte à rythme, mélangeant flûte pygmée et sansa pour créer une house organique avant l'heure. Avec 25 albums à son actif, il a fusionné jazz, tradition et électronique. Parmi ses morceaux phares, celui-ci illustre cette audace et cette diversité.
Et je chante
Trésor magnétique éclaire l'univers d'un artiste traditionnaliste par culture, futuriste par nécessité.